La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Comme à l'habitude, je suis en compagnie d'Izzy Lévesque. Bonjour Izzy.
Bonjour.
Aujourd'hui, on est avec Yannick Patelli, éditeur à La Vie agricole, et Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon. Bonjour à tous.
Bonjour à vous deux, les Michel, et bonjour Izzy.
On a vu au cours des dernières semaines, entre autres à Ottawa, le ministre rencontrer les lots blancs, les métros, les grandes bannières d'épicerie pour essayer de trouver des solutions au coût du panier d'épicerie. Par la suite, ils ont rencontré des entreprises. Il y a Coca-Cola et Pepsi-Cola qui ont fait une absence remarquée parce qu'ils étaient invités. Ils ne se sont pas présentés à la rencontre. Et il y avait d'autres entreprises là, qui sont dans le domaine de l'alimentation, qui ont discuté avec le gouvernement fédéral. Des discussions qui, pour beaucoup de gens, paraissent un peu esthétiques parce qu'on a hâte de voir comment ça va terminer en bout de ligne. Mais une chose est sûre, c'est que l'inflation est partout et elle semble s'être grandement évitée dans notre panier d'épicerie. Là.
Effectivement, l'inflation est partout, je dirais surtout à l'épicerie, mais on va essayer de déterminer si c'est vrai ou pas vrai, parce qu'en tout cas, on va écouter de toute façon, on a un audio à écouter de la députée.
En tout cas, on sait qu'il y a ces hypothèques de maison, entre autres.
Ça, c'est assez clair.
C'est une chose assez claire.
On va écouter tout à l'heure l'audio d'Alexandra Zaga Mendez, qui est la députée de Verdun à Montréal, dans le quartier de Montréal, et... on va aussi, je vais vous parler un petit peu aussi de Sylvain Charlebois, qui s'exprime oui. souvent sur la consommation. C'est le spécialiste de la consommation au Québec comme chercheur. Il est d'ailleurs parrain de l'Institut Jean Garon. Il a sorti un texte cette semaine aussi où il ramène ça un petit peu plus.
Et Sylvain en est rendu attaché à quelle université? À un moment donné, c'était Guelph, Dalhousie. Là, c'est Dalhousie.
Toujours Dalhousie, oui. Lui, il a une lecture de l'inflation qui est moins dramatique peut-être que d'autres. Oui, donc on va pouvoir en parler tout à l'heure aussi. Mais je commencerai peut-être par vous dire, écoutons donc la députée de Verdun.
Ah oui? OK. Oh, écoutez ça.
Question principale, je reconnais la députée de Verdun. La parole est à vous. Juste à vous, on l'écoute.
Merci, Madame la Présidente. Quand les temps sont durs, la première facture que les gens coupent, c'est l'épicerie. Les gens sont pris à la gorge et la première victime, c'est la nourriture locale et en santé. En plus, cette année, les pluies diluviennes ont détruit les récoltes du Québec. Ça fait que les épiceries sont obligées d'aller acheter à l'étranger des denrées qui coûtent plus cher. Prenons la laitue Iceberg, par exemple. Normalement, on en a plein à 1,99 $. Mais cette année, c'est souvent des laitues étrangères à 3,50 $, voire 4 $ si on en trouve. À ce prix-là, le monde est forcé d'aller au Tigre et Géant pour acheter à manger. Puis là-bas, il n'y a pas de fruits et légumes du Québec. Ma question, c'est pour le ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'il va faire pour que tout le monde au Québec ait accès aux produits locaux, puis c'est pas juste le monde qui a de l'argent qui vont pouvoir se payer la salade pour souper?
En réponse, le ministre des Finances.
Présidente, mais d'abord, j'aimerais dire, nous sommes très conscients que la situation est difficile. L'économie ralentit. Les taux d'intérêt sont élevés, l'inflation est élevée, la composante logement, la composante alimentation sont plus élevés que l'inflation générale. C'est vraiment une situation qui est difficile présentement. Et on le reconnaît, puis c'est pour ça qu'on n'a pas attendu pour agir. On a posé des gestes qui, toute proportion gardée, sont importants et font une différence pour les Québécois. Alors, on a le crédit d'impôt pour les aînés de plus de 70 ans à faible revenu. On a l'indexation du régime fiscal, la baisse d'impôts, le programme de revenus de base, la composante logement, du crédit d'impôt solidarité, le plafonnement des tarifs, tous des gestes qui font une différence pour les Québécois au quotidien. Et puis, lorsqu'on regarde dans l'ensemble, en moyenne, le revenu disponible des Québécois a augmenté plus que l'inflation, mais c'est certain qu'il y a des individus, des personnes, des familles, des entreprises où c'est très difficile, puis on va continuer à les aider avec des gestes ciblés.
Première complémentaire.
Gestes ciblés.
Madame la Présidente, les changements climatiques font déjà augmenter les coûts de l'épicerie au Québec. C'est aujourd'hui que ça se passe en 2023. Il faut qu'on se réveille. J'interpelle donc le ministre responsable de l'Agriculture et l'Alimentation. Quelles sont les démarches qui sont faites pour que le Québec ait une vraie stratégie gouvernementale pour assurer notre sécurité alimentaire face au changement climatique?
La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, chère collègue, pour votre question. C'est certain que ce qu'on vit cette année, c'est un bel exemple des défis que le monde agricole rencontre en lien avec, avec les changements climatiques. On était aux quatre coins du Québec. D'un côté, on a des pluies qui sont torrentielles, on a des inondations. Un autre coin du Québec, on a tout ce qui s'appelle de la sécheresse. On a juste à parler, à penser à l'Abitibi pour cet été. Alors, dans un contexte comme ça, la première chose qu'on fait, là, c'est d'être en accompagnement, puis de venir suivre, puis d'accompagner nos producteurs, nos productrices, faire en sorte de les accompagner, qu'ils puissent passer à travers ces aléas-là. De l'autre côté, c'est de mettre en place des équipes. Je vais revenir pour la prochaine question.
Deuxième complémentaire.
Merci. Parlons donc de nos producteurs agricoles, parce qu'en ce moment, ils se laissent mis de côté par le gouvernement, parce que les changements climatiques rendent nos fermes vulnérables et déjà, eux et elles sont endettés, ils n'ont plus une scène. Je rappelle des solutions. Une aide d'urgence pour les agriculteurs et adapter nos programmes d'assurance récolte au changement climatique. Est-ce que le ministre va enfin entendre nos producteurs?
La réponse du ministre.
Je suis heureux de voir là, que la députée est sur l'idée des aides d'urgence. Je rappellerai que cet été, on a annoncé une aide qui va générer 100 millions de dollars en liquidité pour nos entreprises et puis qui s'adressait à toutes les entreprises qui avaient jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires. On a annoncé vendredi passé que maintenant, ça allait être toutes les entreprises qui pourraient avoir accès à ce programme-là. Deuxième des choses, bien, il y a différents comités qui sont en place aujourd'hui, dont avec l'assurance récolte, entre la financière agricole et les différents producteurs et productrices, faire en sorte de pouvoir modifier, adapter les programmes qu'on a en fonction des nouvelles réalités climatiques. Fait que je vais assurer ma collègue là, qu'on est présent en appui avec les producteurs et les productrices. On est aussi présent pour tout ce qui touche l'adaptation des programmes et les changements climatiques.
Oui, bien, c'est... Des échanges, comme disait certains journalistes, hein, faut se rappeler qu'à l'Assemblée nationale, c'est la période des questions, pas nécessairement celle des réponses. Hein. C'est toujours un peu flou comme réponse.
J'ai bien aimé la réponse du ministre des Finances. Ça, oui, le ministre des Finances, toujours extraordinaire. J'aime. Je ne sais pas c'est quoi le violon qu'il y a, mais il est bon.
Certainement pas loin d'un Stradivarius.
Ben, parce qu'en fait, pour remettre dans le contexte, il faut savoir que la députée de Verdun, c'est la critique agricole de l'opposition de Québec solidaire. Donc au début, évidemment, on voit bien, elle veut parler en fait au ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, il passe le ballon d'abord
au ministre des Finances.
Puis au final, le ballon lui revient, il donne quelques réponses. Mais le ministre des Finances, moi, effectivement, il y a une chose qui m'a étonné dans ce qu'il a dit, que je ne comprends toujours pas. Quand il dit le revenu, je ne sais pas s'il a dit médian ou moyen des Québécois.
Ah, il dit que oui, notre revenu a augmenté.
Plus vite que l'inflation.
Ben, mais cas, c'est complètement
moi,
faux.
Moi, je n'en connais pas beaucoup.
Moi, j'aimerais bien voir où il a pris ces statistiques-là, lui. Où il a vu ça, ces chiffres-là?
Je pense qu'il fait sur. Ça ne peut pas être autrement que sur un moyen terme, parce que sur le court terme, c'est pas vrai.
Mais non, c'est pas vrai. Juste,
court terme, là, peut-être que sur un horizon de 3 ans ou 5 ans, c'est possible.
Puis au-delà du salaire moyen, de toute façon, moi, je pense que c'est la part d'endettement par rapport au salaire qui est beaucoup plus importante là, dans l'équation. Là.
Ça, c'est difficile. La partie la plus difficile à gérer, c'est justement la question de l'endettement. Michel parlait d'une hypothèque, ça, là, tu peux pas y faire grand-chose, t'es pris devant ça.
Exact.
Mais pour ce qui est d'épicerie, si vous permettez, je vais vous dire qu'il y a des choses à faire. Il y a des solutions dont on parle à peu près jamais. En politique, il est plus rentable de parler de problèmes et puis d'accuser tous les autres, mais il n'y a pas grand monde qui parle de solutions. Hein. L'inflation dans le domaine d'épicerie, c'est partons d'un panier d'épicerie type avec un certain nombre de produits. C'est comme ça que c'est mesuré, là. Ces produits-là, le nombre, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être 50, c'est peut-être 40 produits, mais les mêmes tout le temps. Et ceux-là, systématiquement, sont suivis. Donc, c'est le reflet d'un panier type. Mais ce panier type-là, vous n'êtes pas obligé nécessairement de l'adopter comme le vôtre, là. Parce que dans tout cela, il y a des produits pour lesquels l'inflation a joué beaucoup et pour lesquels vous n'êtes pas obligé d'acheter, je ne sais pas, mais un chou-fleur à 5 $ s'il fait partie du panier, il contribue à avoir un gros chiffre là, d'inflation.
Oui, parce que moi, en fait, j'allais te dire un chou-fleur à 5 $ si tu as un chou-fleur à 5 $ tu me le diras, parce que je vais aller l'acheter. Parce que je pensais qu'on était plus rendu même presque au double pour un chou-fleur présentement.
Et je ne sais pas jusqu'à quel point ça donne le goût. Ça redeviendra peut-être un peu plus à la mode. J'avais l'impression que souvent, en ville, le jardin avait eu, dans les banlieues, une petite tendance à disparaître derrière les maisons. Et là, est-ce que l'inflation va ramener les gens à dire on va se cultiver des légumes l'été prochain?
Ben, je ne sais pas, ils n'auront peut-être pas le temps parce qu'ils vont avoir deux jobs, justement, pour atteindre le 10 salaire qu'on est supposé avoir.
Mais c'est peut-être par le jardin privé qu'on va retrouver la souveraineté alimentaire. Parce qu'en fait, le grand discours du ministre, quand même, qui est sur la souveraineté alimentaire depuis la pandémie, ça, c'est le discours qu'il a très, très bien porté. En fait, il y a une petite claque qui est donnée au discours sur la souveraineté alimentaire. Parce que, comme dit la députée de Verdun, au jour d'aujourd'hui, on fait quoi pour acheter des légumes à moindre coût?
Si ce n'est, qu'est-ce qu'on fait pour encourager local?
Si ce n'est que de les importer, parce que en fait, la solution revient toujours à ça.
Non, moi, j'étais pour arriver à... Quand on parle de choix, on a aussi le choix à l'intérieur d'un bon nombre. L'offre alimentaire est abondante. Tu n'es pas obligé d'acheter toujours la même chose. Et si le bœuf est trop cher... Là,
achète du porc.
Oui, il existe d'alternatives. Et puis, si on va encore... Dans le domaine des viandes...
Il y a du ballonné aussi.
Des cuisses de poulet, c'est toujours en solde. C'est toujours pas cher.
C'est vrai, ça.
Et vous pouvez faire des repas si vous savez cuisiner, parce que c'est là aussi qu'il y a une solution. Cuisiner, trouver des façons. On n'est pas obligé d'acheter le pot de beurre d'arachide Skippy si lui vient de monter de 12 %. Il y a peut-être une alternative à Skippy. Mais il y en a dans les... plusieurs milliers de produits qui sont sur la table.
C'est sûr qu'il faut avoir une variété de goûts alimentaires aussi. Il y a des gens qui sont plutôt restreints dans ce qu'ils consomment.
Voilà,
là.
C'est ça. Il y a des gens qui sont restreints. Des pâtes et du riz, ça coûte jamais bien, bien cher, ces choses-là. C'est des bases intéressantes pour faire de l'alimentation.
Oui, c'est vrai qu'il y a une capacité, en fait, quand on cuisine, parce que, en fait, c'est de la bouffe transformée qui coûte extrêmement cher aussi, mais il reste quand même que ce que soulève la députée de Verdun, c'est un peu une réalité pour beaucoup de gens, c'est que quand tu vas à l'épicerie, oui, à la limite, les légumes importés sont rendus qui coûtent moins cher que les légumes produits ici parfois. Donc là, c'est là où je dis qu'il y a une contradiction entre ce qu'on veut faire collectivement
Certains légumes, oui. C'est pas vrai pour les carottes, nécessairement. Les carottes n'ont pas été autant affectées que d'autres. Je vous demande pas, mais on veut juste des carottes, mais je peux faire une recette, par exemple, avec des cuisses de poulet, carottes, oignons, navets.
J'ai faim, là.
et puis, avec quelques fines herbes, c'est super bon.
Et ça, c'est
pas cher. Et ça, c'est pas cher. Mais c'est sûr que si vous achetez des produits transformés et encore plus sur-transformés, ben là, vous tombez dans les choses pour lesquelles l'inflation a joué beaucoup. Et là, on se trouve devant une situation pour laquelle les gens disent « Ah, il n'y a plus de solution ». Mais il y en a une solution, le choix. Le choix,
oui, le choix va être
diversifié. Il y a des gens pour lesquels ils n'achèteront jamais rien d'autre que le beurre d'arachide du Skippy ou le ketchup.
C'est exactement ce que j'allais dire.
On va faire une pause. On va revenir. En même temps, ça va me donner le temps d'aller vous chercher des Greek cheese et une burrée de beurre de pinot pour Michel. On fait une pause, on revient dans un instant pour continuer l'innovation cette année.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boisvin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole.
Nous voilà de retour à la quotidienne et pendant la pause, on se faisait quasiment des recettes à parler de tout ce qu'on peut retrouver dans le panier d'épicerie. Puis on parle évidemment d'inflation aujourd'hui, particulièrement l'inflation dans votre panier d'épicerie. Et Juste avant la pause, ben on se disait qu'il y a peut-être de la variété qu'il faut essayer d'amener dans notre panier. Il y a peut-être certains trucs pour essayer de contourner un peu cette inflation-là. On parlait également, Yannick, de la possibilité, là c'est sûr, on n'est pas dans la période d'année pour ça, mais quand arrive le printemps, de se dire, est-ce qu'on se fait notre propre jardin pour essayer de sauver un peu, là, sur le...
Oui, effectivement, Michel Saint-Pierre a raison, Michel Cloutier, Michel Saint-Pierre a raison quand il dit qu'il faut être diversifié dans sa cuisine, mais... En même temps, il y a aussi une réalité. En tout cas, tu parlais, Michel, en introduction tout à l'heure, tu disais bon, que le gouvernement consulte actuellement les grandes distributions, puis les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau fédéral pour aider les Canadiens? Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait juste ouvrir un petit peu. Il y a combien de distributeurs au Canada? Moi, je trouve, ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir, quand tu vas en Europe, de voir, oui, il y a les grosses chaînes comme Carrefour. Après, tu as un peu moins de moyens, tu vas chez Leclerc. Ouais. Si tu as un petit peu moins de moyens, tu vas chez Lidl. Si tu as moins de moyens, tu vas chez Albi. Il y a Auchan. La diversité de magasins de distribution, les casinos, les Super U, il y en a partout. Il y en a partout et beaucoup de diversité. Donc finalement, il y a une concurrence entre eux qui fait qu'au bout de course, le produit a... Parce que on va parler tout à l'heure de Sylvain Charlebois qui a fait des comparables où il trouve que la vie n'augmente pas beaucoup ici comparativement à l'Europe. Je sais pas, moi je suis allé 6 fois depuis 2 ans en Europe pour le travail et les raisons personnelles. À chaque fois, je trouve que ça nous vient pas cher.
C'est comme ça que tu as pris cet accent-là.
Ah oui, ça doit être ça.
Avant, je parlais bien.
Parce que dans le fond, son nom, c'est Yannick Potel.
Effectivement, il n'y a pas beaucoup de... Comment on dit? De la concurrence.
Il n'y en a pas.
Ça a fait l'objet d'échanges tout récemment. Et il y a même quelqu'un qui a dit... Même par exemple, les chaînes européennes sont venues faire un tour, ont dit non, ça nous intéresse pas. D'abord, le marché n'est pas gigantesque, il faut dire ça. Puis il est déjà contrôlé par, on peut dire, 4 grandes chaînes. Pas plus que ça, là, tu sais, avec.
Mais Michel, on va se profiter, j'allais dire l'âge, mais non, on va profiter de votre expérience. Est-ce qu'à l'époque, là, des Steinberg, Dallaire et tout
ces gens-là,
est-ce qu'il y en avait plus ou c'est tout simplement parce qu'avec le temps, ça a changé de propriétaire, mais il n'y en avait pas plus?
Moi, je pense pas que l'offre était beaucoup plus grande parce que les moyens de circuler pour aller la chercher, la diversité, n'étaient pas là. D'abord, quand j'étais jeune, moi, tu prenais pas ta voiture pour faire trois centres commerciaux. D'abord, il n'y a pas tant que ça, les centres commerciaux. Puis, t'avais une épicerie. Près de chez nous, c'était une épicerie Richelieu qui est devenue partie de métro. Mais t'allais là. Tu prenais ce qui était chez Richelieu, là, parce que... Donc ça ne s'est pas amélioré. C'est-à-dire, ça ne s'est pas détérioré dans ce sens-là.
On partait pas avec les coupons, là, dire on va acheter 3-4 morceaux chez Maxi, 2-3 chez Métro, puis un chez IGA.
Là. On le faisait à pied, là, fait que ça, on ne pouvait pas aller bien loin. Là, tout le monde n'avait pas 2 voitures. Même pas une. Alors, non, il y avait... Et les chaînes commençaient à se diversifier un peu, mais il y avait... mentionné Steinberg, il y avait Dionne aussi, qui était une chaîne d'alimentation à Montréal. Mais c'était pas quelque chose pour lequel tu avais moyen de faire un tour. Donc, la concurrence s'exerçait pas tant que ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de petits épiciers de coins de rue pour lesquels c'est là qu'on allait parce que les autres étaient trop loin. Et puis, donc, je peux pas dire que...
Il y avait plus de possibilités.
Non, je pense pas qu'il y en avait plus d'offres. Pour revenir à peut-être juste un petit point, la laitue Iceberg, peut-être qu'elle est plus chère, mais peut-être que la laitue Boston ou la laitue, surtout la romaine qui est abondante, qui est pas chère, donc... Tu n'es peut-être pas obligé de manger uniquement de l'iceberg. Tu peux faire une salade de romaine avec... on peut vous donner une autre recette, mais non, c'est pas là. On n'est pas une émission de cuisine.
Pas tout de suite, parce que j'aimerais ça vous ramener sur le thème de l'inflation.
Oui.
Je vais vous donner 2 extraits. Il y a 2-3 affaires dans le texte de Sylvain Charlebois qu'on a reçu, qu'on va publier sur notre site, mais je pense qu'il y a la chronique aussi qui va être publiée dans la presse. Il dit, sur une base mensuelle, il est à noter que seule la catégorie des poissons a connu une hausse, tandis que toutes les autres catégories alimentaires englobant la viande, les produits de boulangerie et les produits frais ont connu une baisse de prix par rapport au mois précédent. Ça, c'est la statistique. En effet, cela représente une réduction notable des coûts alimentaires, impliquant une tendance encourageante. Le taux d'inflation alimentaire a atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, et l'écart entre l'inflation alimentaire et l'inflation globale s'est presque réduit de moitié au cours du dernier mois, se situant actuellement à un modeste 2,8%. Alors, rappelons que le modeste 2,8%, il s'ajoute quand même sur tout ce qu'on a eu avant.
Sur tout le reste,
mais il reste que... Donc, la lecture qu'il en fait... D'ailleurs, le titre de l'article, c'est « Inflation alimentaire, des bonnes nouvelles, enfin ». Donc, la tendance que sent le professeur Charlebois,
oui.
c'est quand même qu'on s'en va vers le mieux.
Ça ralentit.
Ça, c'est une des bonnes nouvelles.
Ça ne va pas empirer.
Ça ne va pas empirer. Mais par contre, il a dit aussi plus loin dans son texte, en comparaison, le Canada continue à présenter l'un des taux d'inflation alimentaire les plus bas parmi les pays du G7. Ça m'a surpris beaucoup. Se classant deuxième après les États-Unis, malgré la hausse des prix alimentaires, les Canadiens s'en sortent relativement bien en comparaison avec de nombreux pays européens. Et moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai quand je vais en Europe. Mais bon, c'est lui
le chercheur. Mais ça, c'est au niveau de l'offre alimentaire. Moi, ça me ramène encore à dire que oui, on a ça, mais il se passe un peu comme on a entendu dans la députée de Verdun. Tu sais, il y a l'ensemble de l'œuvre. C'est que peut-être que oui, notre panier d'épicerie est moins cher qu'ailleurs. Mais par contre, ben justement, l'inflation au Québec est la plus élevée de toutes les provinces, justement, au Canada. Fait que, tu sais, c'est un peu un dommage collatéral aussi. Là.
Ben, le loyer, on achète des vêtements, on achète une voiture, on achète... Tous ces éléments-là regroupés font que le nombre de dollars disponibles... Si...
Mais par contre, c'est vrai qu'au Québec, ça fait quand même 30 ans que je suis là. C'est pour ça que j'ai perdu mon accent français. Non, mais il faut noter qu'au Québec, c'est vrai que ça surprend les prix de l'immobilier parce qu'en fait, la particularité du Québec, j'ai mis les pieds ici en 89 la première fois, j'ai immigré en 93. Je dirais de 93 à 2003, 4, 5, là, c'était ridicule. Pour un Européen qui regardait ça ici, il dit non, ça se peut pas. Ça n'existe pas un pays où des maisons coûtent si peu cher, où des appartements coûtent si peu cher. C'était improbable. Bon. Alors que c'est vrai que depuis 15 ans, ça explose à la face de tout le monde, mais c'est peut-être juste... c'est comme si le Québec avait rattrapé le marché mondial.
On se normalise par rapport au reste du monde.
Oui, parce qu'en France, ça va arriver qu'une hypothèque va se promener de génération en génération. Ce qu'on n'a pas encore vu ici. Là.
Absolument. Mais ce que Yannick dit, c'est... Statistiquement parlant, là, c'est ici au Québec que le coût de l'habitation était le plus bas. Par rapport au comparable, là, je ne sais pas si quelque part à Terre-Neuve, c'est différent, mais je dis par rapport aux grandes villes, par exemple, Montréal était deux fois moins cher pour à peu près la même maison, même surface que Toronto, puis trois fois moins cher que Vancouver. Bon, puis l'autre statistique qui, elle, est assez constante depuis 20 ans, c'est que la part du revenu disponible de tout citoyen consacré à l'alimentation est plus basse que partout sauf aux États-Unis. On est le pays, avec les États-Unis qui est un petit peu en bas, qui consacrons le moins de notre argent disponible, notre salaire, à l'alimentation.
Ça représente quoi à peu près? Est-ce que tu sais un peu...
Ça représente moins de 20 %.
Moins de 20 %
Moins de 20 %.
Bon. Ah, ben il faudrait le dire à mon conjoint, ça. Parce que je pense que lui, c'est plus autour des 50 %.
Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hausses. Et puis ça ne veut pas dire que quelqu'un... Puis plus on va dans des gens qui ont des revenus modestes, plus c'est 50 %. Plus ils sont pris entre deux gros facteurs, l'habitation, donc le loyer, et l'alimentation.
Ça, c'est deux choses qui sont essentielles.
Qui prennent la totalité là, pour les personnes.
Non, oui,
c'est ça dont on parle souvent.
Justement, Izzy parle de l'essentiel en alimentation. Mmh. Il y a un autre passage qui est intéressant dans la chronique de Sylvain Charlebois, parce qu'il rappelle ce que le fédéral, en fait, est en train de réfléchir actuellement. Ça, je ne savais pas ça. Il dit, alors que le gouvernement... à Ottawa, donc le gouvernement Trudeau, explore des moyens d'aider la population, il pourrait être opportun de réfléchir au lancement d'un programme national de sécurité alimentaire destiné à soutenir les enfants et les familles qui sont véritablement dans l'incapacité de se permettre de se nourrir. Une adaptation canadienne, en fait, du programme de bons alimentaires, le SNAP.
Voilà.
Donc, parce qu'aux États-Unis, il existe ce système.
Il existe ce système. Presque le trois quarts du budget du ministère de l'Agriculture du USDA, là, qu'on appelle la loi alimentaire, qui est une quinquennale, à peu près le trois quarts, c'est justement
destiné
consacré aux consommateurs, à aider, par exemple, l'alimentation au niveau scolaire, d'une part, mais aussi les gens qui ont des revenus trop modestes. Et donc, on n'en parle pas beaucoup de ça.
Il y a ça aussi, juste une petite seconde, tu parles justement de l'alimentation au niveau scolaire. Ça aussi, on en a parlé, j'ai vu ça dans les journaux dernièrement, qu'on parlait de jeunes qui allaient aller à l'école le ventre vide.
Oui, mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, pourquoi aux États-Unis, on est capable de mettre... Les États-Unis, qui est quand même, on l'a déjà dit, je crois, dans la quotidienne la semaine dernière, là, c'est un pays, en fait, qu'on voit comme un pays dur avec ses pauvres, en fait, on va dire ça comme
ouais,
ça.
Ouais,
mais finalement, il y a des programmes plutôt adaptés. Alors qu'au Canada, on est un pays social. Ouais, on a un Canada social. Qui, en fait, est-ce qu'on a peur de dire qu'on a des pauvres? Est-ce que c'est ça le truc?
Aux États-Unis, on a l'impression d'abord que leur mot d'ordre, c'est que le meilleur gagne. Alors, je veux dire, si c'est pas bon, tasse-toi. Mais la réalité, au niveau justement des personnes à revenus modestes, ils sont mieux organisés que nous, plus généreux que nous. Ce côté-là.
Alors, peut-être plus ciblé, hein? Ce qui fait que peut-être au Canada, lorsqu'on regarde l'ensemble des programmes sociaux, on est très généreux, mais on est très généreux à donner la même chose à tout le monde. La PCU, pendant la COVID-19, aurait pu être distribuée autrement au poirata de ce que les gens gagnaient, non pas un montant identique pour tout le monde. Ce qui fait qu'il y en a qui sont retrouvés plus pauvres et d'autres sont retrouvés plus riches qu'est-ce qu'ils étaient.
Ça fait penser un peu aussi, même au Québec, quand on donne, il y a les montants, il y a un 100 $ qui est donné par enfant pour les fournitures scolaires, mais ça aussi, ça devrait être quelque chose qui devrait peut-être être au prorata parce qu'on n'a pas les mêmes revenus, encore une fois.
Oui. On a la tendance à avoir des programmes universels.
Comme
si la vertu était universelle.
Exact.
Je te donne 1 $, je donne 1 $, c'est vertueux. Or, l'autre...
Dans la réalité, c'est pas ça.
S'il est très riche, le dollar, là... Ouais. Il va dire, ben merci, mais c'est tout.
C'est le principe universel des CPE aussi.
C'est aussi...
Quand on a créé avec Pauline Marois la journée, à l'époque, c'était 5 ou 7 $ je pense.
C'est ça.
Je vais à 10 aujourd'hui, peut-être. Ben,
ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'on vient de subventionner des gens riches.
Ben oui, parce qu'il y avait des gens qui avaient les moyens. Ben,
eux payaient, à l'époque, 25 $ par jour minimum pour un enfant. Mais ils se retrouvaient à dire, je vais avoir maintenant accès à un programme où mon enfant, je vais payer 5 $.
Alors qu'il n'y en aurait pas eu besoin dans les faits.
Donc, cette universalité-là crée justement la situation qu'on vit. Le dernier chèque qui est envoyé à tout le monde, là, même s'il y avait une petite variation entre les riches et les pauvres, c'était pas énorme. La plupart des gens de revenus plus élevés ont juste dit merci beaucoup, c'est tout.
S'en ont-ils vraiment rendu compte qu'ils ont reçu cet argent-là?
Certains s'en sont pas rendu compte. Certainement.
Et voilà, je pense que c'est un dossier qui va continuer de faire jaser, particulièrement cette année, parce que l'inflation... On espère qu'elle va diminuer, mais on en a encore un petit bout où ça va se retrouver au cœur de l'actualité. Merci Yannick. Merci Michel Savière.
Merci à vous tous.
Merci Izzy. Là-dessus, on vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.